Jean Couturier. Mémorable, archive. Francis Ponge s'entretient avec Philippe Solers. Premier d'une série de 5 entretiens de 1988.
Francis Ponge, pour commencer ces entretiens, il me semble qu'il ne serait pas inutile d'expliquer comment l'individu qui va vous poser des questions a été amené à s'intéresser à celui qui va lui répondre, c'est-à-dire vous. Il me semble que dans cette société, toute valeur doit être cherchée en marge, à l'écart, et dans une position de contestation, qui implique à la fois une technique positive et un refus de tout compromis théorique et pratique. Si je me réfère à mon expérience personnelle, j'ai lu pour la première fois un texte de vous, par hasard, dans une anthologie. Ce texte, c'est Les Escargots. J'étais très jeune, mais l'impression ressentie a été immédiatement celle d'un anti-lyrisme, d'une volonté de communication neuve, d'une sortie du manège, comme vous diriez, d'une sortie du ronron poétique et d'une reconsidération élémentaire, lexicale, sensible, à la mesure d'une crise radicale. Ce texte que j'ai commencé par lire m'a donné envie de lire tout ce que vous écriviez et je suis obligé de noter que pour vous lire, il faut accomplir un travail. Que par conséquent, il faut partir d'une périphérie. On prend contact avec un texte de vous, mais si l'on veut vraiment lire ce premier texte, il faut parcourir un très long chemin. Ces entretiens, je voudrais les placer sous le signe de votre refus de la qualification de poète. Que vous nous disiez pourquoi et comment cela vous a amené à travailler dans l'ombre. Puisque l'on nous a demandé de parler ici, et sans que nous soyons dupes de la levée d'une censure, qui en ce moment même peut-être frappe des recherches inconnues, qu'avons-nous donc à dire des rapports de contestation qu'un travailleur de votre sorte entretient avec la société où il vit? Autrement dit, quelle est la condition qui vous est faite? Comment vous, Francis Ponge, avez-vous réussi à venir jusqu'à aujourd'hui à la radio, par exemple? Il me semble qu'il ne faut pas cacher à l'auditeur ces coulisses de l'information par lesquelles les lecteurs et les auditeurs, justement, doivent se rendre compte que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent ne se manifeste jamais qu'à travers une multitude de relais, de filtrages, et dans un contexte que l'écriture ou la parole telle que vous l'entendez ont pour fonction de penser. Je voudrais vous demander si vous êtes conscient des tentatives incessantes de récupération et de déviation qui ont pour but de masquer la réalité d'un travail, ce travail dont vous allez nous parler, au profit d'une idéologie stérilisée, noble ou tout simplement bornée.
Oui, rompant à mon tour en cet instant même et pour ce qui me concerne le silence, je voudrais, comme je le fais toujours, saisir aussitôt la situation présente dans sa matérialité. Que se passe-t-il concrètement à l'instant même? Je viens de commencer à parler devant les micros de la radio. Cette déclaration est enregistrée. Me plaçant maintenant à l'instant où vous, auditeur, vous entendez cette déclaration. Eh bien donc, qui entendez-vous? Je dois en effet me présenter. Le mot est bon ici dans toutes ses acceptions. Je crois en effet que je me présente, je me rends présent. Vous entendez un homme qui a choisi, voici longtemps, de vivre d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière. Quelle manière? L'écriture. Je parle donc en ce moment à défaut d'écrire. Au cours des entretiens qui suivront, Il sera dit pourquoi et comment j'ai été amené à choisir cette activité, ou pourquoi j'ai été choisi par elle, et à décrire tant soit peu quels sont les avatars d'une vie consacrée à cette activité, à ce travail. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces avatars, qui est justement celui que je connais à nouveau aujourd'hui, je l'ai déjà connu, celui d'être invité à parler, celui d'être aux prises avec un organe d'information. Dans toute société, les organes d'information sont codés. Tout membre de cette société doit en passer par là. Il s'agit d'en être conscient. Et à partir de là, d'agir en conséquence. Or, je suis convaincu que le seul moyen d'agir et non d'être agi est justement celui que j'ai choisi, l'écriture. Le seul moyen d'agir sur cette information elle-même et de s'insérer dans cette information pour la déformer. Une société, c'est un ensemble de langages dont le principal est le langage lui-même. J'entends le langage commun, celui qui se parle et qui s'écrit. Il s'agit de savoir si l'on accepte ce langage, si ce langage est de votre goût, si votre goût ne le refuse pas, si vous pouvez employer ce langage. Eh bien, je dois dire quant à moi que c'est par dégoût de ce langage que j'en suis venu à écrire. Il s'agira donc pour moi, pour pouvoir vivre, de modifier ce langage. Je m'y suis employé de diverses façons. Mais la société, son ou ses langages, a mille moyens de se défendre, de se conserver. Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé, on va aussitôt vous traiter de poète. Voulez-vous que nous redescendions aux anecdotes ? Vous venez de me dire, cher ami, que vous m'avez lu, appréhendé d'abord, dans une anthologie. Eh bien, je mets en fait que dans cette anthologie, et j'ai été certainement traité de poète, alors que je n'ai cessé de déclarer que je ne voulais pas être considéré comme un poète, que je ne me croyais pas, mettons même, digne de cette appellation, et que j'écrivais en prose, que j'ai toujours écrit en prose, que j'ai également, comme je vous l'ai dit, choisi cette activité, non du tout pour former des objets poétiques, mais seulement pour pouvoir dénoncer le langage commun, en former ou aider à en former un autre, et que je pense seulement que je ne pouvais pas écrire et que l'on ne peut pas écrire autrement que j'ai écrit. J'ai essayé seulement d'écrire de la façon la plus claire que je l'ai pu. Eh bien, ces anthologies, qui fait ces anthologies? Qui se donne le droit de classer, de fourrer les gens dans tel genre ou dans tel autre? Qui fait cela? Eh bien, nous savons par expérience que ce sont généralement des ratés de l'écriture à proprement parler. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de s'exprimer autrement qu'en manipulant, qu'en triturant ce qu'ils appellent l'histoire ou les genres. Hein.
Ce qui est important, c'est donc de marquer qu'il y a pour vous, et ça je suis absolument d'accord, constamment une sorte de falsification à l'œuvre.
La confusion est telle en ce qui concerne la littérature et le classement et la hiérarchisation des écrivains actuellement qu'on considère comme écrivains des gens qui en viennent, par exemple, à écrire des mémoires. Eh bien, il m'est arrivé de lire comme ça très vite et de parcourir quelques-uns de ces mémoires qui sont romancés au maximum. et d'y dire mon nom. Je suis introduit dans je ne sais quel roman contemporain dans lequel on me fait dire ou on me fait agir de façon tout à fait inexacte, ridiculement simplifiée ou falsifiée. J'ai naturellement omis de protester jamais contre ce genre de falsification parce que, ma foi, je n'ai pas de temps à perdre. Mais qu'il soit bien dit une fois que je refuse absolument tout ce qui a pu être dit de moi dans ce genre de littérature, puisqu'on appelle ça encore de la littérature.
Oui, je pense qu'il est très nécessaire de commencer cette série d'entretiens par les mises en garde que vous venez de faire. Nous sommes ici, en fait, pour essayer de donner oralement une approche de lecture de vos textes, de donner à tout auditeur éventuel des éléments d'étude, des éléments de travail qui lui permettraient de lire. C'est justement cette lecture qu'il me semble que tout le système profondément idéologique et qui ne veut pas se reconnaître comme idéologique, bien entendu, de la société où nous vivons, c'est précisément contre cette lecture que toute cette idéologie est tournée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quelqu'un comme vous, qui travaille de façon extrêmement lente, extrêmement précise, avec des retours incessants et une volonté d'inachèvement perpétuel, n'est-ce pas ? Donc, quelqu'un qui, comme vous, ne produit pas les objets de consommation exigés par la société, mais qui, au contraire, essaye de transformer les conditions mêmes de cette consommation éventuelle, c'est donc sur ce travail, c'est donc ce type de production qui s'avoue lui-même comme étant une production perpétuelle qui est constamment occultée. Et il est bien évident que les organes de publication sont tenus, sont aux mains de l'idéologie dont nous parlions, qui donc oriente une lecture qui constamment a des présupposés de sens, de rationalité, d'intelligibilité, et que les textes qui arrivent dans ces régions seront portés ou non à la connaissance d'un public s'ils répondent à ces critères a priori que les employés de ces organes de publication appliquent constamment. Évidemment, ils seraient très étonnés de se considérer comme les purs et simples employés d'une idéologie latente. Ils occupent là des fonctions qui pourraient être occupées par n'importe qui d'autre, pourvu que la même idéologie soit défendue. C'est ce qui me frappe constamment, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la critique littéraire. Il est bien évident que la plupart des articles qui paraissent constamment, cette énorme masse de discours qui consiste à cacher sans cesse le travail portant sur le langage, il est d'ailleurs remarquable qu'il y ait cette prolifération de discours sur la littérature, n'est-ce pas ? Comme si la littérature était quelque chose de très dangereux, finalement, et dont le dévoilement risquerait d'apporter des changements peu souhaitables pour les gens en place.
Oui, il faut constamment se désaffubler. Et se désaffubler, non seulement des affublements qu'on a tendance à se former à soi-même, enfin les poètes, comme on dit, sont les premiers à s'affubler, mais des affublements que vous inflige, par exemple, la critique littéraire. Il faut ne pas vouloir, il faut refuser ces affublements et faire en sorte de s'en dévêtir, s'en désaffubler à chaque instant.
Ce refus de la qualification de poète, vous dites que c'est à cause d'une certaine détermination qui vous est propre, qui fait que vous n'avez pas pu vivre autrement que par l'écriture et que par l'exercice et la pratique d'une certaine écriture. Mais je voudrais vous demander si vous ne pensez pas que ce refus recoupe un certain nombre d'expériences historiques fondamentales, dont d'ailleurs vous n'avez pas cessé de parler. Je pense à Lautréamont et je pense à Mallarmé, et que vous avez cette particularité de ne pas pouvoir faire comme si un certain nombre de textes fondamentaux n'avaient pas existé, alors que tout le monde, au fond, fait comme si ces textes n'avaient pas eu lieu, n'étaient pas opérants, effectifs. D'autre part, vous êtes déjà intervenu à la radio, et c'était en 1952, avec Breton et Reverdy. Aussi bien Breton que vous-même aviez à ce moment-là fait des déclarations violentes qui semblaient marquer que le terrain était bloqué, qu'il n'y avait pas possibilité, au fond, de s'expliquer et de dialoguer avec la société culturelle telle qu'elle était faite à l'époque. Vous parliez vous-même de reconversion de l'industrie logique, comme devant être le travail premier, le travail essentiel que ce qu'on appelle encore poésie devrait s'attacher à faire. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a fondamentalement changé depuis, ou non ?
En somme, vous m'avez posé successivement, à l'instant même, deux questions. Je réponds d'abord à la première. Il est un fait que j'ai écrit à plusieurs reprises le nom de l'autre amant ou celui de Mallarmé. Je prends par exemple un texte qui est à la fin d'un ouvrage intitulé « My Creative Method ». Le jour où l'on voudra bien admettre comme sincère et vrai la déclaration que je fais à tout bout de champ, que je ne me veux pas poète, que j'utilise le magma poétique, mais pour m'en débarrasser, que je tends plutôt à la conviction qu'au charme, qu'il s'agit pour moi d'aboutir à des formules claires et impersonnelles. On me fera plaisir. On s'épargnera bien des discussions oiseuses à mon sujet. Eh bien, ce texte répond aussi à votre interrogation, pourquoi pas poète ? Il est suivi presque immédiatement de la note suivante. Il faut travailler à partir de la découverte faite par Rimbaud et Lautréamont de la nécessité d'une nouvelle rhétorique. Rimbaud, je sais maintenant saluer la beauté. Lautréamont, un peu partout dans les poésies. Et par exemple, je lis un passage de Lautréamont. La mission de la poésie est difficile. Elle ne se mêle pas aux événements de la politique, à la manière dont on gouverne un peuple, ne fait pas allusion aux périodes historiques, aux coups d'État, aux régicides, aux intrigues des cours. Elle ne parle pas des luttes que l'homme engage par exception, avec lui-même, avec ses passions. Elle découvre les lois qui font vivre la politique théorique, la paix universelle, les réfutations de Machiavel, les cornets dont se composent les ouvrages de Proudhon, la psychologie de l'humanité. Un poète doit être plus utile qu'aucun citoyen de sa tribu. Son œuvre est le code des diplomates, des législateurs, des instructeurs de la jeunesse. Vous voyez qu'il y a là une conception de la poésie active qui est absolument contraire à celle qui est généralement admise à la poésie, considérée comme une effusion simplement subjective, à la poésie considérée comme, par exemple, je pleure dans mon mouchoir ou je m'y mouche et puis je montre, j'expose ce mouchoir et voilà une page de poésie. Il s'agit évidemment de bien autre chose. Je l'ai dit, il s'agit d'une activité et d'un travail. Comment ces textes existants, le fait qu'on a jusqu'à présent, je reprends un texte de moi dont je vous ai cité le début tout à l'heure, il faut travailler à partir de la découverte faite par Rimbaud et Lautréamont de la nécessité d'une nouvelle rhétorique, et non à partir de la question que pose la première partie de leurs œuvres. Jusqu'à présent, on a travaillé qu'à partir de la question, ou plutôt à reposer plus faiblement la question. Et ici, je rejoins et je commence à répondre à votre seconde question. Quand j'ai parlé au cours de mon entretien avec Breton et Reverdy de 1952 d'une reconversion de l'industrie logique, il s'agit exactement de cela, n'est-ce pas ? Il s'agit que le rôle positif de la poésie s'exprime enfin, que s'il ne s'agisse plus des gémissements et de tout ce que l'autre Hamon classe, par exemple, dans les grandes têtes molles, n'est-ce pas? Il s'agit que le rôle positif de la poésie, que je viens de définir comme une activité qui donne les lois de la politique, de la morale, que la poésie soit considérée ainsi. À propos de cet entretien avec Breton et Reverdy, qui a donc eu lieu en 1952, c'est-à-dire il y a maintenant 15 ans. Eh bien, vous me demandez si j'ai l'impression que quelque chose a changé. Oui, dans une certaine manière, non, d'une autre manière. Est-ce que cela a complètement changé? Non. Parce qu'il me semble que ce que nous avons dit à l'époque n'est pas passé. À propos de cela, un nouveau texte de Lautréamont. La poésie personnelle a fait son temps de jonglerie relative et de contorsion contingente. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle. Les notions de la simple raison sont tellement obscurcies à l'heure qu'il est que la première chose que font les professeurs de quatrième quand ils apprennent à faire des vers latins à leurs élèves, jeunes poètes dont la lèvre est humectée du lait maternel, c'est de leur dévoiler par la pratique le nom d'Alfred de Musset. Les professeurs de troisième, donc, donnent dans leur classe à traduire en vers grecs deux sanglants épisodes. Le premier, c'est la repoussante comparaison du pélican. Le deuxième sera l'épouvantable catastrophe arrivée à un laboureur. Pourquoi pencher la tête d'un lycéen sur des questions qui, faute de n'avoir pas été comprises, ont fait perdre la leur à des hommes tels que Pascal ou Byron? Un élève m'a raconté que son professeur de seconde avait donné à sa classe, jour par jour, ces deux charognes à traduire en vers hébreux. Ces plaies de la nature animale et humaine le rendirent malade pendant un mois qu'il passa à l'infirmerie. Comme nous nous connaissions, il me fit demander par sa mère. Il me raconta, quoiqu'avec naïveté, que ses nuits étaient troublées par des rêves de persistance. Il croyait voir une armée de pélicans qui s'abattaient sur sa poitrine et la lui déchiraient. Il s'envolait ensuite vers une chaumière en flammes. Il mangeait la femme du laboureur et ses enfants. Le corps noirci de brûlures, le laboureur sortait de la maison, engagé avec les pélicans un combat atroce. Le tout se précipitait dans la chaumière qui retombait en éboulement. De la masse soulevée des décombres, cela ne ratait jamais. Il voyait sortir son professeur de seconde, tenant d'une main son cœur, de l'autre une feuille de papier où l'on déchiffrait en traits de soufre la comparaison du pélican et celle du laboureur, tel que Musset lui-même les a composés. Il ne fut pas facile au premier abord de pronostiquer ce genre de maladie. Je lui recommandais de se taire soigneusement et de n'en parler à personne, surtout à son professeur de seconde. Je conseillais à sa mère de le prendre quelques jours chez elle en assurant que cela se passerait. En effet, j'avais soin d'arriver chaque jour pendant quelques heures et cela se passa. Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées, de vos phrases, arrangez-vous. Eh bien, ceci pour dire que ça ne s'est pas passé non plus pour nous. Il faut que nous revenions pendant quelques heures ou quelques minutes pour que l'on entende que il faut que la critique attaque la forme de vos phrases et non le fond. Arrangez-vous. Ce qui a changé, c'est que il s'avère que depuis quelque temps, et cela est récent, il est clair que maintenant la culture tourne autour d'une science. De quelle science? Eh bien, de la linguistique. Les sciences humaines, dont la linguistique fait partie, ont fait de grands progrès, ou plutôt, si l'on veut, sont venues à la surface de façon éclatante depuis peu de temps. Et peut-être justement, cela s'est-il passé depuis 1952. Il me semble que, actuellement, on n'est pas loin de considérer que le discours sur la littérature, entre guillemets, la poésie, entre guillemets, l'art en particulier, sera de moins en moins métaphysique et de plus en plus scientifique. Pour moi-même, en ce qui me concerne. Il se trouve que je ne suis plus en cet instant même en entretien avec des poètes, mais avec, vous permettez cette expression, plutôt un anti-poète, et plutôt quelqu'un qui se voue à un travail de l'ordre scientifique. Il se trouve que les hommages à des poètes, eh bien, ne contiennent plus aucun texte de moi que je n'y collabore pas. Il se trouve que les revues de florilèges poétiques reçoivent de plus en plus rarement des textes de moi. Il se trouve que je les donne plutôt à une revue, pourquoi ne pas dire son nom tel quel, où l'on s'occupe de problèmes en liaison avec les sciences humaines telles que je viens d'en parler.
C'était Mémorable. Francis Ponge s'entretenait avec Philippe Solers.
France Culture.
France.
Vous écoutez France Culture.
Culture.
Vous êtes sur France Culture. France Culture.
Vous écoutez France Culture.
France Culture, partenaire du festival Why Not, du 15 au 30 novembre à Dijon. L'Extrême-Orient donne le ton de cette 7e édition tournée vers les compositeurs occidentaux passionnés par le Japon. Reynolds, Feldman, Eloy, Cage, Stockhausen nous conduiront naturellement vers l'univers de Takemitsu, Mochizuki, Ozokawa, Takemura. Why Not, musique d'aujourd'hui à Dijon, du 15 au 30 novembre, à retrouver dans les émissions de France Culture. France Culture vous offre des places de concert tout au long de ce festival. Vos invitations au 08 92 68 10 99, touche 2, rubrique place de spectacle, 0,34€ la minute.
Right, look out that window.
È l'oro di Dongo!
Non perdiamo tempo in domande e risposte. Andiamo oltre. Oltre le parole. Io ho pensato a te per un progetto straordinario. Maria. Ma.
France Culture présente Le sourire de ma mère, un film de Marco Bellocchio avec Sergio Castellitto, sélection officielle Cannes 2002. Peintre reconnu, Ernesto apprend que l'Église veut sanctifier sa mère. Choqué par cette nouvelle, il réalise qu'on l'a tenu dans l'ignorance et que cet événement est en complète opposition avec sa vie d'artiste, d'homme libre et athée. Le sourire de ma mère, de Marco Bellocchio, en salle le 20 novembre, à retrouver dans les émissions de France Culture.
Sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo.
In evidenza noi saremo sempre le peggiori, penso le missioni in Africa e in Sud America. Perciò inchino davanti alla sua autorità.
Alla guardia europea, mira il suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente
Vous écoutez France Culture, il est exactement midi aujourd'hui où il n'y aura pas de flash en raison d'un arrêt de travail pour défendre une revendication en matière de salaire et concernant l'ensemble des...